Alternantaise, alternantais, en cette période très mouvementée politiquement, on voit fleurir à différentes occasions des appels à boycott de tel ou tel artiste, voire l'appel à empêcher le déroulement d'un concert, d'une conférence, d'un film. Ce fut le cas du concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël à la Philharmonie de Paris, perturbé par des fumigènes. Cet orchestre, composé de juifs, d'arabes israéliens et de druzes, est une coopérative dont seulement 10% du budget annuel provient de l'État d'Israël. Ce fut récemment le cas d'un chanteur franco-israélien, Amir, au Zénith à Nantes, dont les prises de position plutôt pro-Tsahal font de lui une cible privilégiée. Rien qu'avec ces deux cas, je m'interroge sur le bien fondé d'un boycott d'artistes. Autant on peut sans doute croiser les prises de position d'un individu tel qu'Amir, mais qu'en est-il de la centaine de musiciens d'un orchestre? Par ailleurs, quel réel impact pour faire avancer la cause palestinienne? L'impact me semble être beaucoup plus sur les artistes eux-mêmes que sur l'État israélien. Ce qui n'est sans doute pas la même chose pour l'Eurovision, où il s'agit bien là d'une représentation du pays. On peut donc penser que cela aurait eu plus de sens, d'autant qu'un autre pays, également auteur de crimes de guerre, est interdit d'Eurovision, la Russie. Alors oui, il semblerait logique qu'Israël ne puisse participer à cette manifestation. Pour ma part, à partir de ces exemples, il me semble que l'utilisation de l'outil boycott doit être utilisé à bon escient. Je trouve contre-productif d'appeler au boycott d'artistes uniquement du fait de leur nationalité, comme ce fut le cas pour des réalisateurs israéliens qui sont très souvent, de fait, des anti-Netanyahou de la première heure. C'est pourquoi je trouve que le boycott économique, tel que celui des produits Jaffa, me semble plus pertinent, même si c'est prohibé en France par l'article L420-1 du Code du commerce, car considéré comme une entente anticoncurrentielle restreignant ou faussant le jeu de la concurrence. Ah, libéralisme, quand tu nous tiens. C'était le cas aussi du boycott des oranges Houtspan à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Durant cette période, il n'y aurait eu aucun sens de boycotter Johnny Clegg, au même titre que réalisateur israélien aujourd'hui. Plus généralement, doit-on boycotter tout ce qui vient d'un pays antidémocratique, expansionniste, voulant imposer son autorité sur le monde? Dans cet ordre d'idées, on pourrait se poser la question du blocus des États-Unis, du fait des GAFA, du président Trump et de son ingérence dans des pays comme le Honduras ou de ses attaques contre le Venezuela, par exemple. Je pense que ce serait rude sur le plan culturel. Déjà que c'est difficile économiquement, même si l'envie est là. Mais comment écrire ma chronique et l'enregistrer en me passant de mon ordinateur pomme? Sans parler des réseaux sociaux, même sans y être accro, qui sont, et c'est là le problème, quasiment tous américains. Et ne parlons pas ici de la Chine et l'esclavage des Ouïghours. Comment éviter d'acheter des produits fabriqués en Chine aujourd'hui? Prenons le cas de la Russie. Il y a eu des appels à boycotter, là aussi, des artistes ou des spectacles mettant en scène des auteurs russes. Mais qu'est-ce que cela veut dire « russe » aujourd'hui pour des auteurs nés dans des républiques soviétiques avant la chute de l'Empire soviétique? Quelle signification a un boycott de Gogol ou Mikhaïl Bulgakov, ukrainien? Ou bien de Boris Akounine, né en 1956 en Géorgie, donc en Union soviétique, mais opposant au régime, ayant dénoncé tant l'annexion de la Crimée que l'invasion de l'Ukraine? Un boycott ou un appel à mise à l'index doit être pensé, significatif, avec une portée politique telle que l'interdiction aux sportifs de concourir sur le drapeau russe. On ne les empêche pas de participer à la compétition, mais sans représenter leur pays. La question aurait d'ailleurs pu se poser pour Israël aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'arme du boycott, à force d'être utilisée, peut aussi devenir banale et ne plus avoir le poids de celui des oranges Houtspan dans les années 70-80, qui faisait de fait beaucoup parler du ségrégationnisme de l'Afrique du Sud. Les réseaux sociaux n'aident pas non plus. Il est tellement facile d'appeler à mettre à l'index tel artiste parce qu'il est soupçonné d'agression sexuelle, avant même que l'affaire ait été entendue en justice et parfois même lorsque la justice a blanchi, peut-être faute de preuves, mais non condamné tout de même la personne. Est-ce que le boycott doit se transformer dans ce cas en justice populaire avec toutes ses dérives? Bon, il est vrai que lorsque de nombreuses femmes ont témoigné sans se concerter contre la personne en question, on peut alors comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que la justice passe. Mais je pressens tout de même que des dérives sont faciles, que les boycotts sont susceptibles d'être aussi instrumentalisés par les uns ou les autres, et que tout compte fait, les boycotts économiques me semblent moins délicats à utiliser. Mais quant à répondre à la question « boycott or not boycott », je n'ai pas de réponse définitive.